RMC, entre les poteaux, Christophe Cessieux.
Salut à tous, recherche date de report désespérément. Le rugby français, et pas que français d'ailleurs, s'enfonce semaine après semaine dans une crise de calendrier, conséquence évidemment d'une autre crise sanitaire, celle-là qui fait s'accumuler les matchs reportés. Des solutions, on le verra, il n'y en a pas des masses, mis à part celle de faire jouer tous les matchs en retard durant le tournoi des Six Nations, ce qui va occasionner un nombre record de doublons. Qui dit doublons dit évidemment certains clubs particulièrement désavantagés. C'est le cas du Stade Toulousain, pourtant élève modèle en matière de Covid, mais qui risque de payer l'addition très chère. On vous dit tout de cette crise dans un instant. Notre frelon du week-end est fidjien, un garçon qui nous avait régalé la saison dernière en soulevant, vous en souvenez certainement, du sol un arbitre, non pas dans un geste agressif, mais plutôt festif. Reisuke, le troisième ligne du Castres Olympique, qui depuis soulève de bonne heure les supporters du CO. Il a encore été énorme ce week-end contre le Stade Français. Et puis dans French Cancan, nous partirons à la découverte des coquelets du rugby français. Une joyeuse bande de bisous talentueux, garçons qui pourraient faire leur apparition dans la liste que Fabien Galthié communiquera lundi prochain en vue du tournoi. Après les coquelets, voici les vieux coqs des poteaux. Tous rois de leur basse-cour, à commencer évidemment par Denis Charvet. Ça va mon petit coq?
Ouais,
est-ce que ça continue de chanter le matin au réveil?
Pourquoi?
Bah je sais pas, un coq ça chante.
Je chante tout le temps moi.
Tu chantes tout le temps.
Même si j'ai pas de voix, je chante.
C'est déjà pas mal. Manu Massicard lui réveille tous les lundis et vendredis matin le peuple d'Ovalie, non pas en chantant, mais en publiant le Midi Olympique. Salut Manu.
Salut les amis.
Et puis nos poulets à nous sur RMC, oui c'est pas encore des coqs, c'est des poulets. J'ai nommé Jeff Paturo et Wilfried Templier, ça va la volaille?
Ça va, pas mal, merci.
Ça va, bonjour à toutes et à tous.
Allez messieurs, on attaque tout de suite avec la mêlée des poteaux.
La grande fête attendra.
Patatras, finalement, fin de matinée. RMC vous révélait que le match était reporté.
Ça fait deux matchs qu'on joue, plein d'équipes ne jouent pas.
Qu'est-ce que vous voulez dire?
Qu'on se rebelle, qu'on fasse grève.
Le choc historique opposant les deux stades toulousains et français devait être la grande affiche avant l'annonce de son report.
Ça m'embête un peu ça.
Le match entre Montpellier et Toulon en top 14, prévu initialement ce dimanche à 21h05, est reporté.
Par contre, c'est vrai que bon, on avait quelques cas la semaine dernière.
Forcément, on n'a pas envie que le championnat soit tronqué.
Et comme je dis toujours, quand c'est long, c'est trop long.
Nous, pour le moment, on va pouvoir tenir notre calendrier comme prévu.
Et surtout, qu'il soit un petit peu déséquilibré.
Je crois que ça va être encore une année compliquée.
Mais ça continue encore et encore.
Mais oui, ça continue, c'est peut-être que le début effectivement, et que c'est triste un dimanche sans rugby, c'est triste et c'est ce que nous avons malheureusement vécu hier après que les deux matchs programmés par la Ligue aient été tous les deux reportés en raison du Covid, de cas de Covid trop nombreux dans certaines équipes, en l'occurrence Toulon et Montpellier. Semaine après semaine, les reports s'accumulent et si certains réussissent à passer entre les gouttes, ce n'est pas le cas de tout le monde. Jeff, on va commencer par voir avec toi quels sont les bons et les mauvais élèves de la classe du top 14.
Ouais, c'est un peu comme les bons et les mauvais chasseurs, faut les chercher en top 14 en ce moment. C'est vrai que les cas de Covid sont multipliés un petit peu partout, du RCT au MHR en passant par l'UBB, le Stade français, quasiment personne n'y échappe. Les bons élèves, malgré tout, il y a 4 clubs qui n'ont pas eu de match reporté ces derniers temps. Castres, Lyon, Perpignan, Biarritz, les deux promus, oui c'est à signaler, ont pu jouer leurs 15 matchs de cette première partie de top 14. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et encore plus fort, même Castres est à jour en Coupe d'Europe puisqu'ils avaient joué les hommes de Pierre-Henri Bronco en Irlande lors de la deuxième journée. Eux, ce sont les bons élèves. Les mauvais élèves, ça va monter en puissance puisque l'UBB, La Rochelle, Clermont, le Racing, Pau, le Stade français et Brive ont un seul match de retard. Un match de retard, vous allez me dire, c'est pas grand-chose. En revanche, pour Toulouse et Montpellier, c'est 2 depuis le week-end dernier. On rappelle que le Stade toulousain n'a joué qu'un seul match depuis mi-décembre avec une défaite à Clermont. Les hommes de Mola ont dû renoncer à 3 matchs à domicile contre les Wasp en Coupe d'Europe, le Stade français et Montpellier. Ça fait beaucoup. Et pour le moment, tu le disais, Toulouse est le bon élève, c'est paradoxal. Mais les mauvais élèves, à l'insu de leur plein gré, on va dire, puisqu'ils n'y sont peut-être pas pour grand-chose, il y a un vrai débat là-dessus d'ailleurs, c'est les hommes de Franck Azéma à Toulon qui ont comptabilisé plus de 24 Covid. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de nouveaux cas positifs. Ils ont 3 matchs en retard, rendez-vous compte, avec des matchs en retard contre l'UBB, Montpellier et La Rochelle. Ça va être compliqué. Il y a même une frayeur la semaine dernière avec un jeune, un espoir qui a passé des examens à l'hôpital, qui a dû partir à l'hôpital après avoir été touché par le Covid quelques jours plus tôt. Il va mieux, c'est la bonne nouvelle. Noël, mais le casse-tête du calendrier va commencer dans les jours à venir.
Eh oui, casse-tête, oui. Déjà que c'est compliqué habituellement, sans qu'il n'y ait de cas de Covid. Et dès qu'il y a un souci, ben, l'embouteillage guette. Alors, quelle solution s'offre aux dirigeants de la Ligue ? Match en semaine ou doublon pendant le tournoi ? Vers quoi on se dirige ?
On en est à 7 matchs reportés. Pour le moment, si ça reste comme ça, seulement 7 entre guillemets, c'est encore jouable puisqu'il reste des dates dans le tournoi destination. Ça ferait des nouveaux doublons, évidemment. Il y a 3 week-ends de libre. Le week-end de 12 février, c'est le week-end de France-Irlande. Il n'y a pas de top 14. Là, les premiers matchs reportés devraient être les premiers matchs reprogrammés à cette date-là, puisque ça sera par ordre chronologique. Rebelote un mois plus tard pour le week-end du 12-13 mars. Et enfin, il restera un week-end aussi de libre sans top 14 mais avec de l'équipe de France encore une fois. Ce sera le week-end de France-Angleterre. S'il y a besoin d'un dernier week-end, ce sera ce week-end-là, le dernier week-end de mars. Et si ça ne suffit pas, il faudra passer par des matchs en semaine, 72 heures minimum entre deux rencontres. Et si ça ne suffit pas encore pour disputer tous les matchs, ce sera le fameux système de péréquation avec des calculs barbares.
On peut pas faire deux matchs d'affilée, par exemple, sur deux heures, par exemple, tu fais un premier match.
C'est ça, contre deux équipes différentes.
Ouais. Différentes.
Ah, bête, faudrait qu'on en parle.
Tu fais un tournoi, puis
Manu,
tu
vas
jeter du bordel au bordel, toi.
Manu, faudra en parler dans un livre.
Ouais, c'est pas bête, ça.
Bon, messieurs, ça risque quand même d'être un drôle de tournoi destination, avec d'un côté les matchs du top 14 et de l'autre les matchs du tournoi, durant chaque week-end international. Ça arrive, ça arrivait par le passé évidemment, mais pas tous les week-ends. Là, en l'occurrence.
Il faut s'adapter. C'est contrainte, il ne faut pas que ça continue, quoi, ça perdure. Le seul problème, c'est que là, on parle de cette. L'actualité, mais si demain ça continue, qu'il y ait des matchs reportés, je ne sais pas où on va aller.
Ouais. Si match perdu, mais
si on en vient au match perdu.
Match perdu.
Oui, mais ce serait dramatique quand même.
Oui,
c'était les règlements
pour toi,
de
la solution. C'est la solution qu'a adoptée le PCR, évidemment.
La solution. Il y a deux ans, je crois, la Ligue nationale de rugby avait dit pas de match, enfin des cas de Covid, on peut pas jouer, match perdu. À la première, au premier problème, ça avait été botté en touche, et on s'était retrouvé avec des matchs reportés dès la première journée, me semble-t-il. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'était ça.
Le Stade français, je crois, non ?
Ouais, exactement. Il y a pas de. Depuis, tu galères avec ça. Et tant qu'il y aura pas des décisions fortes, il y aura des débats et on va aller sur la surcharge du championnat, du calendrier.
Et ça fera plus d'équité, Manu. Tu crois que des doublons, finalement, on en revient au même. Ce sera le même parce que s'il y a deux cas dans une équipe et qu'il et que les mecs ont été sérieux et que malgré tout, comme beaucoup d'entre vous, comme beaucoup qui nous écoutent, vous avez le Covid. C'est pareil, hein.
C'est pas la solution idéale, mais bon.
Ah, mais il y a pas de solution idéale. Sauf que là, tu vas avoir des polémiques. On a bien vu ce qui s'est passé ce week-end encore. À chaque report de match, il y a des polémiques. Et tu vas te retrouver avec un embouteillage sur la fin de saison. Au moment où tu es à un an et demi de la Coupe du Monde. Allez, un an et 10 mois de la Coupe du Monde. Au moment où tes joueurs internationaux doivent être au repos. Au repos ménagé et pour arriver plein de bourre sur la Coupe du Monde. Et ben, c'est là où tu vas aller faire le plus jouer, ou tu risques de le plus les exposer. Je trouve que c'est un très mauvais calcul.
C'est vrai que la situation actuelle, ça incite pas vraiment les équipes à la discipline la plus intransigeante. Hein, vous me direz, même quand on fait attention, on peut attraper le Covid, mais là quand même, on vient de voir, il y a certaines équipes qui semblent faire plus attention que d'autres, et pourtant ce sont les bons élèves qui vont se voir sanctionner. C'est quand même paradoxal. Le Stade Toulousain va devoir jouer tous ses matchs de top 14 pendant le tournoi, quand on sait qu'il y avait 11 internationaux.
Et qu'est-ce qu'il a dit, Philippe Saint-André ?
Et il a dit que sans Dupont, c'était pas tout à fait le même rendement pour le Stade Toulousain.
Et voilà.
Oui, mais il y a le doublon, il y en a toujours eu.
Oui.
Les dernières, ils perdent 50% de leur match.
On passe par exemple pour un Dupont à 7 matchs. 7 matchs où il va pas disputer il portera pas le maillot du Stade Toulousain. Ça fait beaucoup.
Oui, ça fait beaucoup, bien sûr, mais on le sait depuis un moment. Hein. Bon, là, ça fait qu'accélérer le processus. Mais qu'est-ce que je te dise ? C'est le championnat qui est fait comme ça. Alors, est-ce qu'il faut en arriver à des décisions dures, comme le dit Manu, peut-être ?
Toi, alors, voilà, la proposition de Manu, est-ce qu'il faudrait donner match perdu aux équipes qui ne présentent pas le nombre de joueurs, un nombre minimum de joueurs valides pour un match ?
Vous allez voir que les tests, ils vont être pas toujours, je pourrais dire, transparents dans ce cas-là, peut-être aussi, non ? Ou vous n'avez pas peur de ça, vous ?
Ouais, touche, tiens.
Oui, parce que, en fait, il y a quand même beaucoup d'équipes qui sont drôlement concernées, il y en a d'autres pas souvent. Est-ce que c'est un hasard ou pas ? Je pose la question aussi.
Hasard ?
Ouais, mais après, attendez, parce que moi, je veux bien que qu'on dise que Toulouse est impacté, c'est vrai, surtout quand ils n'ont pas de joueurs positifs. Mais je vais bien voir la tête des Toulonnais après leur quoi. J'ai pas regardé exactement, mais leur 10 matchs de suite avec les trois matchs
sûr,
à recaser.
C'est sûr.
On va voir comment ils vont finir la série, comment ils vont arriver au printemps avec l'enchaînement de tous les matchs, trois matchs en retard.
Et c'est pour ça que je te dis que c'est pas la solution.
Ouais, c'est aussi l'occasion. Peut-être, ce serait aussi l'occasion, mais ça, c'est vieux comme le monde et vous voulez pas en parler, de réfléchir à notre calendrier, notre championnat et qui est saucissonné, qui a aucune place et dès qu'il y a un petit pet, et ben voilà, on se retrouve avec des problèmes et c'est les joueurs qui vont jouer plein de matchs et voilà. Mais tout va bien, le top 14 est beau, on a des belles finales, des choses comme ça.
Et l'enchaînement là, après le Covid.
Pavé dans la marge, excusez-moi.
Le Covid, c'est pas toujours un rhume, hein. Pour certains joueurs, il peut y avoir des frayeurs, il peut y avoir des blessures, des remises en route. Il faut adapter.
Oui,
et c'est pas anodin d'avoir le Covid et d'enchaîner comme dit Wilfried 10 matchs. Ouais. Pour la santé des joueurs, je suis pas sûr.
Je te dirais l'inverse aussi, Jeff. Parce qu'il y a des managers, des entraîneurs qui voient leurs joueurs avec des très bons tests et qui, hop, ils sont positifs le lendemain et qui se disent, ils sont asymptomatiques et ça se voit pas. Donc c'est un casse-tête mais complet. Il y a tous les exemples que vous voulez. Quoi.
Ouais. C'est vrai que le RC Toulon va aussi, même s'il va y avoir un enchaînement incroyable, va pouvoir récupérer une partie de ses blessés d'ici les prochains matchs du top 14. C'est pas des moindres, des Tsebet, des Olivon, même s'il est.
Est-ce qu'ils vont avoir dans les doublons, ils ont des joueurs qui vont manquer? Pas beaucoup.
Quelques-uns, mais
ils seront pas trop impactés.
Moins qu'à Toulouse.
Tu as raison.
Bon, le top 14 qui n'est pas la seule compétition impactée, la Coupe d'Europe l'est également, on l'a vu tout à l'heure, Jeff, la politique est différente, mais malgré ce, il va bien quand même falloir faire jouer certains matchs qui ont été reportés, non pas à cause du cas de Covid, mais non. À cause de politiques différentes dans les différents pays concernés. Le PCR se dirige vers quoi, là aussi, pour justement reprogrammer cette deuxième journée qui a été très impactée.
La bonne nouvelle, c'est que les troisième et quatrième journées, je cite, devrait se dérouler comme prévu. C'est le communiqué de l'EPCR la semaine dernière, avec du conditionnel, parce qu'on n'est jamais trop prudent. Et tu le disais, il y a des confrontations, 5 confrontations, si je ne dis pas de bêtises, en Champions Cup et 2 en Challenge européen, lors de la deuxième journée, des confrontations franco-britanniques qui n'ont pas pu avoir lieu, qui n'ont pas pu se dérouler, en raison de l'absence de dérogation de déplacement, notamment pour les clubs. On se dirige, du coup, vers une date à grappiller, et cette date à grappiller, ce serait un des deux huitièmes de finale, pour l'instant, qui sont prévus en match aller-retour, confrontation aller-retour, début avril, puis la semaine suivante. Du coup, les confrontations franco-britanniques qui n'ont pas pu avoir lieu mi-décembre devraient avoir lieu le week-end du 8 au 10 avril.
C'est ça.
C'est la tendance, en tout cas, à la Ligue nationale de rugby. C'est le projet porté par les Français, mais aussi, a priori, par pas mal de monde. Il faut l'unanimité des protagonistes pour que la compétition, le format de la compétition soit ajusté. Mais c'est la tendance. Il y a plusieurs options, mais c'est la tendance forte.
Bon, ça veut encore
et donc à
8
de finale ensuite sec quoi, sur un match sec, hein,
c'est ça. La semaine
pas plus en aller-retour quoi.
Non.
Ça veut encore dire quelque chose. C'est vrai que c'était moi je trouvais que cette Coupe d'Europe, cette formule avec ces matchs aller-retour en 8e vachement intéressant. Là du coup on va en être privé, cela
oui,
fait
déjà si on va au bout.
Oui, voilà, il faut aller au bout après pour sauver la Coupe d'Europe.
Vous rappelez le nombre de matchs qu'on a joué en poule l'année dernière? Toulouse, le nombre de matchs qu'ils ont joué en poule?
Un
seul, une victoire en Ulster.
Un seul, ouais.
Et après, on a oublié, hein, huitième de finale, quart de finale, demi et tout, c'est...
Et est-ce que la Coupe d'Europe, aussi, il y a des clubs qui commencent à s'interroger, peut-être pas ceux qui jouent la Champions Cup et qui ont une chance vraiment de se qualifier, mais en Challenge européen, il y en a d'autres. Est-ce que la Coupe d'Europe a encore un intérêt? Est-ce que ça vaut prendre des risques sanitaires aussi?
L'annuler, pour moi, c'est une catastrophe. Ça serait une catastrophe.
D'accord.
Après, il faut la sauver, quitte que de coûte, et puis des grands matchs à la fin, t'auras des grands matchs, bon, après... Il n'aura pas peut-être la même saveur que les autres Coupes d'Europe, mais ça restera une Coupe d'Europe.
Très bien. Eh bien, wait and see. Ouais. Et mettez vos masques. Et on espère qu'on va pouvoir continuer.
Et attention au forfait ce week-end.
À jouer au rugby. Oui, il risque d'y avoir pas mal de forfaits ce week-end. Non, d'ailleurs, si les clubs qui étaient impactés ce week-end vont l'être également le week-end prochain, ou si tout ça va disparaître soudainement. Nous verrons ça.
La suspicion, hein.
Ah, oui, on adore.
On va traquer ça.
Suspicion.
Hein.
On va changer de sujet, messieurs. On va retourner sur le terrain, puisqu'il est l'heure de célébrer notre frelon du week-end.
RMC, entre les poteaux.
Lancé comme un frelon.
Et le titre tant envié de frelon du week-end revient à un joueur en reconversion. Il était ailier. Il est maintenant troisième ligne, flanqueur plus exactement. Il soulevait de l'arbitre. titre. Maintenant, bah, il soulève les adversaires et les supporters de bonheur. Josiah Risuke est en train de mettre tout le monde d'accord au sein du Castres Olympique et même du top 14, Wilfried. Hein.
Bah oui, on va dire c'est tant mieux parce qu'évidemment quand on dit Risuke, toute la France du rugby et plus encore passe à son geste la saison passée lorsqu'il jouait à Nevers et qu'à la fin du match à Béziers, à la suite d'un protocole vidéo favorable qui signifiait la victoire, eh bien de joie il avait soulevé l'arbitre comme un trophée. C'était il y a un an, hein, c'était le 8 janvier. Tout ça c'est quand même du passé. Et bien aujourd'hui tu l'as dit, il porte le maillot de Castres et à la faveur des longues blessures de Babillot et de Laporte, le manager Pierre-Henri Broncan a fait passer Risuke du poste d'ailier à celui de troisième ligne. Il a joué 6 des 7 derniers matchs à ce poste à partir de fin novembre, hein, titulaire ou remplaçant. Titulaire, bah, il l'était samedi dernier face au Stade Français. Et à la fin du match, sans qu'on lui pose la moindre question sur le joueur, eh bien, le manager Pierre-Henri Broncan y a été de son hommage.
Et après, je suis satisfait aussi de la reconversion de Joshaya Risuke, qui était passé par le Stade Français, qui est un ailier, qui fait 80 minutes aujourd'hui de très haut niveau, je trouve, et qui est passé de lever des arbitres à pas prendre presque de pénalité aujourd'hui. Je trouve ça super. Je suis très heureux de son recrutement. Je remercie Xavier Pemeja, d'ailleurs, l'entraîneur de Nevers, de nous l'avoir envoyé presque. C'est un super garçon entraîné, en tout cas, qui avait une très mauvaise image dans le rugby français, mais qui est en train de se faire un véritable nom, une véritable place en top 14.
En fait, Broncan nous l'expliquait, Risuke, il y a eu un déclic parce qu'il était un peu martyrisé par la nouvelle règle des 50-22. C'était lors d'un match amical face à Montauban. Et ben du coup, il bougeait plus trop de son aile, il se proposait plus. Et bien le staff castré a donc replacé avec bonheur ce colosse d'1m93 et 113 kilos.
C'est un athlète, hein. Il peut faire froid ou chaud, c'est pareil, il est toujours en débardeur et il est très costaud et voilà. Et en plus, il est, on peut dire, fantasque par moment, mais c'est un véritable joueur de rugby. Il pige le rugby, vous voyez bien qu'en troisième rideau, vous le voyez, mais tout simplement parce qu'il sait se replacer, il comprend quand l'adversaire récupère le ballon, qu'ils vont jouer au pied. C'est une forme d'intelligence. Il y a beaucoup de joueurs de rugby qui restent dans le premier rideau, qui comprennent pas ça, et lui le comprend. Et c'est bien. C'est l'image de notre club aussi. On prend un mec, la France rigolait de lui la saison dernière. Je me souviens qu'on l'avait recruté, puisqu'il avait, vous vous en souvenez, levé cet arbitre à Béziers. Et aujourd'hui, nous, on a besoin de gars atypiques comme ça.
Et il y en a des atypiques à Castres. Samedi dernier, Risuke lui a découpé à tout va. À 5 mètres de sa ligne, il a même piqué un ballon pour ceux qui l'ont vu à la mêlée parisienne. Il a fait 80 mètres tout seul parce qu'il a encore l'envergure d'un ailier. Hein. Et défensivement, bah, c'est vraiment une terreur dans le petit périmètre, ce qui fait penser à son coéquipier Thomas Combezou.
Si lui, il a envie de devenir très 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 performant, il atteindra peut-être un objectif qui sera l'équipe nationale de son pays.
Eh oui.
Évidemment. On imagine, ouais, Christophe, qu'à un an et demi de la Coupe du Monde, ça ne doit pas échapper à son sélectionneur Verne Cotter.
Forcément. Pour l'instant, il n'a jamais eu de sélection avec les Fidjiens. À 7. Bon, c'est déjà pas mal. Mmh. Quand tu es à 7 aux Fidji, normalement, ça ne tarde
t'es
pas
trop. Loin de, la, ouais. de 15.
Étonnante reconversion. Il y en a de plus en plus. Hein. Il n'y a pas qu'à
c'est intelligent, en tout cas, parce que c'est un joueur qui ne s'est jamais vraiment imposé. Même au Stade français, il n'a pas été. Tonitruant.
En Pro D2, il a marqué un paquet d'essais quand même.
En Pro D2, oui.
Il a marqué 15 essais une saison.
Au Stade français, il avait été assez ingérable.
Donc, ouais. Bah oui, et puis il y a eu l'histoire, il s'est donc, fait condamner, il a pris du sursis, il a été arrosé avec Weissé à agression sexuelle.
Ça a été compliqué, compliqué à gérer, le garçon, et puis bon, tant mieux. Mais on s'était pas moqué de lui pour l'arbitre, ce que dit Broncan,
c'était pas vraiment,
vrai.
Ça avait filé la banane à tout le monde.
Ouais, on avait souri, ouais, donc c'était sûr. Pas, là, il a fait des tonnes, je trouve pour rien, parce que effectivement, nous, ça nous a fait sourire. Mais après, moi, j'ai vu le match samedi, c'était impressionnant, c'est impressionnant.
113 kilos,
tu imagines. Quand il a buqué le ballon, il y avait trois joueurs du Stade français à ses trousses, on aurait dit trois nains roses qui couraient après ce géant.
Il était
là,
omniprésent et c'est vrai que s'il continue des prestations comme ça, il n'y a pas de raison que Verne Cotter ne l'appelle pas.
C'est à votre avis une idée qui va être adoptée par d'autres, faire passer justement certains ailiers très costauds au poste de flanqueur.
Quand on regarde ce qui se passe au 15 de France, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que Sekou Makalou, il est troisième ligne, mais il le considère aussi comme un ailier. Mmh. C'est ce qu'avait dit le staff au mois de novembre.
Parce quand ils prennent 8 remplaçants, en général, ils le prennent
comme ça, il peut soit rentrer devant, soit rentrer à l'aile. Ouais. C'est-à-dire que c'est dans les deux sens. Et c'est vrai que ces profils, c'est intéressant pour un entraîneur.
Disons que les Fidjiens sont déjà monstrueux, tous. Donc déjà, tu pourrais tous les faire monter en troisième ligne, il n'y aurait pas de... Comment dire, ça ne gênerait pas. Après, il faut... Il le dit, il est intelligent, il est dans le placement, dans la vision. C'est compliqué aussi de s'adapter à un poste comme celui-là. C'est tout à son honneur parce que je pense que c'est pas si évident. Tu prends un joueur comme Raka, par exemple, à Clermont, je suis pas sûr que si tu fais jeu troisième ligne, il s'en sorte. Enfin, il s'en sorte aussi bien que.
Tu penses, Denis, que c'est plus difficile, par exemple, pour un ailier de passer au centre ou de passer au poste de troisième ligne à
Ah ben ça dépend si c'est du pur un pur ailier, mais tu le vois avec il y a plein de Fidjiens qui sont essayés au centre qui sont pas forcément réussis, ils sont restés au valet. Hein. C'est pas une évidence. Après troisième ligne, je
dis. Maïsea a fait les deux.
Je pense qu'un ailier c'est compliqué.
Oui, Botia
alors Botia est un bel exemple. Tu as raison de le dire, Manu, puisqu'il a bien réussi à performer à La Rochelle. Mais c'est pas, moi je trouve que c'est pas évident d'un changement de poste de trois carrels à troisième ligne. Et bravo à eux, et bravo à ces joueurs qui s'imposent en changeant de poste qui sont pas évidents.
Zaku Waka, t'as raison, parce qu'il était lié à Toulon et voilà, Montpellier le fait jouer en troisième ligne. Alors c'est pareil, hein, c'est un physique monstrueux. Ah,
il monstrueux, lui, il est monstrueux.
Sur le ballon au sol dans les rucks, il est terrible. Voilà, mais Raisuke, vous imaginez, il fait 113 kilos. Denis, on parle d'ailier. 1m93, 113 kilos.
C'est voilà, un format à la Lomou, ça. Aussi hein.
Denis au sommet de sa forme.
Ouais, ça permet. Écoute-moi. Ça permet au staff aussi. C'est pour les remplaçants quand mettre 6 avant ou 5 avant et voilà avec ce mec-là, ça permet d'autres options et il y a un éventail plus large pour le staff. Quoi.
Il y a 30 ans, j'ai rencontré les Fidjiens, c'était les mêmes.
Hein.
Ah, ouais. Ah oui, c'était les mêmes. 92, 120 kilos et ils allaient vite.
Bah c'est John Lomu qui
quoi, se jeter dans les pattes
un cauchemar. Ben on fait ce qu'on pouvait surtout.
le quart de finale de Coupe du Monde de 87 bah voilà, avec
tu ressentais plein de boss. Moi il m'a dit
tu les vois là.
Il avait des liens à l'époque monstrueux, j'ai plus son nom que justement le quart de finale à Auckland, il m'avait enterré dans la il est arrivé à 4 contre 1, mais il a pas essayé de faire la passe, ce con, il m'a fait la rafle, il m'a enfoncé dans la terre d'Auckland.
Pour retrouver cette image.
Mais quel idiot, toi, il a essayé de faire la passe.
Denis,
j'avais pas besoin de ça pour me faire massacrer par Jacques Fouroux, tu vois, il y a un mec.
C'est dans ce match où l'arrière, il fait une percée, non, il va laisser, s'il a le ballon à une main.
C'est l'ouvreur qui va laisser. Il a le ballon qui lâche le ballon au moment d'aller aplatir. Et s'il marque, il menait la mi-temps.
En fait.
Ouais, c'est ça.
Bon, après, ils ont concassé devant. Après, ils ont pris quelques coups. C'est pas nous qui allons faire la différence derrière. Il y avait Ménel au centre avec. C'est là où Ménel avait dit on a défendu comme des portes de saloon.
Et qui a porté l'ouverture, c'est ça.
L'expression date de ce match-là. Effectivement. Autre petite remarque concernant Raisuke, ses compatriotes fidjiens. Habituellement, c'est vrai qu'arrivé l'hiver, ils rentraient un peu dans leur coquille, mais les nouveaux fidjiens,
l'hiver
eux, semblent
Castres,
se.
En plus.
Pardon
l'hiver à Castres.
T'as bien vu qu'à Castres, il n'y a pas de Covid.
Il n'y a pas d'hiver. La pluie. Et là, il se régale. Il n'y a pas que lui, hein. On a vu notamment Kivalou avec l'USAP, Botitou avec Castres, c'est les nouveaux Fidjiens. On nous les a changés, les Fidjiens, les gars.
Il y a des mecs qui sont de plus en plus complets, surtout. Ouais. Nakosi, vous pouvez mettre Nakosi aussi, qui peuvent vous faire un cadrage. Alors, Denis, tu parlais de défense. Ces mecs-là peuvent vous faire un cadrage débordement ou vous rentrer dedans. Donc, ça donne une incertitude en défense. Et puis, c'est des monstres physiques, quoi. De toute façon, ça a toujours été.
Je pense quand même que le professionnalisme leur a fait du bien. C'est-à-dire qu'ils sont venus à une époque où ils étaient un peu en dilettante, quelque part. Et maintenant, ils sont professionnalisés. Donc, ils s'entraînent, ils sont sérieux pour la plupart. Hein. Je pense que. Ça vient aussi de là, leur performance, leur changement d'attitude. Puis loin de tous les clubs, les Fidjiens, ils sont quand même, c'est des pièces maîtresses de chaque club.
Il y en a partout des Fidjiens et donc ce Raisuke pourrait bien intéresser Verne Cotter pour la prochaine Coupe du Monde. On va justement en parler de rugby international puisqu'on passe à notre rubrique French Cancan. Et c'est dans une semaine maintenant que Fabien Galthié livrera sa liste pour la préparation du tournoi qui, je vous le rappelle, débutera pour la France le 6 février prochain face à l'Italie. Cette semaine, Fabien Galthié a dévoilé ses ambitions. Pour lui, il est temps maintenant de gagner des compétitions auxquelles le 15 de France participe.
Nous voulons et nous pouvons gagner les compétitions dans lesquelles nous allons nous engager, notamment le tournoi. L'équipe, elle va encore grandir, elle va cumuler plus de sélections, plus d'expérience collective. La moyenne d'âge va monter et obligatoirement, on va être meilleur. Nous allons être meilleurs. L'équipe de France sera meilleure. Le choix est d'arriver en 2023 avec une équipe qui a un vécu, un parcours commun, avoir une forme de cohérence dans la sélection, de continuité et de développement collectif.
Le sélectionneur qui, vous l'avez entendu, parle de maturité, d'expérience collective dans l'équipe et qui, dans le même temps, annonce qu'il s'intéresse à de nouveaux joueurs, dont certains pourraient faire partie de la liste des 42 la semaine prochaine. Difficile à comprendre. Alors, avant d'en débattre, on va voir avec toi, Wilfried, quels sont ces joueurs qui pourraient faire leur apparition dans la liste. Pour y faire quoi d'ailleurs? Jouer ou pour faire banquette?
Alors, 10 noms lâchés par Galthié. Enfin, de là d'aller voir débuter le prochain France-Italie au Stade de France, j'ai mis pas ma main au feu.
Ouais, on va attendre.
Quand votre nom résonne, c'est déjà un bon signe. Alors, qui sont-ils? Alors,
messieurs, il y a déjà toute une colonie de joueurs Rochelet. Excusez-moi, hein, c'est le sélectionneur qui le dit. De deuxième ligne, Thomas Lavaux, champion du monde avec les U20 et successeur désigné de Romain Sazi sous le maillot jaune et noir. C'est un deuxième ligne, vous le connaissez, hein, maintenant on le voit dans le top 14, un longiligne qui se déplace beaucoup, c'est important aux yeux de Galtier et son staff. Autre champion du monde U20, le jeune Mathias Haddad en troisième ligne que Galtier avait déjà remarqué il y a 2 ans lors d'un entraînement à Naples en préparation au tournoi chez les jeunes. Haddad pointe le bout de son nez à l'équipe première à La Rochelle. C'est quelqu'un qui a une énorme activité et un vrai talent. À ses côtés, il y a un joueur plutôt monstre physique, c'est un vrai athlète. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Paul Boudéan. C'est lui aussi qui prend le lead à La Rochelle. Les trois ont respectivement 22, 21 et 22 ans. Donc c'est vraiment la classe biberon là. Et avec eux, un joueur qu'on a appris à connaître, c'est Jules Favre. Le grand public avait découvert le trois quarts polyvalent hein, qui est lié au centre lors de la dernière demi-finale de Top 14 face au Racing, où il avait remplacé Botia qui s'était fait exclure en finale de Coupe d'Europe. Il avait été très bon, Jules Favre, mais c'est un joueur qui a 22 ans également, qui dispute quand même sa troisième saison en top 14. Avec un autre troisième ligne qui va bientôt les rejoindre sur le Vieux-Port, et bien c'est le Racingman Johan Tanga qui portera les couleurs de La Rochelle également la saison prochaine. Tanga qui a un peu surpris tout le monde cette saison, vous me direz si vous êtes d'accord quand même, parce que personne, enfin pas grand monde s'attendait à le voir 13 matchs de top 14, 12 fois titulaire en 8 hein, pour Tanga avec le Racing. Pour l'ancien Agenais qui a 25 ans lui, il pourrait s'immiscer dans la hiérarchie entre, alors il y a Aldridge, Jelonche, il y a Tolofoa, il peut s'immiscer là-dedans tout comme un autre ancien Agenais. Bah, c'est un peu la surprise aussi. Antoine Miquel, pas indiscutable au Stade Toulousain, mais qui a séduit Galtier. C'est un bon porteur de balle, un joueur intelligent qui était capitaine à Agen et qui lui portera les couleurs de l'UBB la saison prochaine. Où jouera Léo Colli la saison prochaine? C'est une question que se pose la moitié du top 14. C'est le demi de mêlée de Mont-de-Marsan, cité par Galtier, meilleur réalisateur de Pro D2, 188 points. Et écoutez, ça fait tout de même 16 points par match quasiment en moyenne. Ben lui, il aura l'embarras du choix pour son avenir. Après, Galtier, vous avez entendu sûrement annoncer que la hiérarchie en neuf, c'était Dupont, Lucu et Couillou. Colli pourrait peut-être venir juste humer l'air de Marcoussi. Est-ce que Léo Berdeux a plus de chances de faire mieux? Pourquoi pas, tant le Lyonnais est en forme, hein, qu'il y a une place à prendre derrière Ntamack Jalibert, à hauteur d'Astoy, de second, bah Berdeux, c'est le meilleur réalisateur du top 14. Il a une carte à jouer. Et enfin, les deux derniers noms, il n'y a pas pléthore d'ailier chez les Bleus. Alors le Parisien Lester Etienne est peut-être une bonne pioche. Malheureusement, il s'est blessé une cheville récemment. Alors qu'à Lyon, Ethan Dumortier, qui a 21 ans, c'est encore un champion du monde du vin, également passé par l'équipe de France à 7, est maintenant titulaire. Il est rapide, athlétique. On attend de voir pour confirmer.
Voilà, plein de noms qui apparaissent. Et puis donc cette école Rochelet, c'est incroyable quand même. Hein. On n'oublie pas que Wilfried a été formé dans cette formidable école. Bon, c'est vrai que depuis, elle a quand même fait pas mal de progrès.
Mais entre hein, demi-mêlée, Wilfried...
Ça fait des émules, oui. Ça fait des émules,
quoi. Il parle, Fabien.
Bon, alors, quels sont parmi tous les noms que nous a cités
Il y en a trop. Il me saoule, Fabien.
Il faut rappeler qu'il a...
Non, mais il m'en met trop de noms.
Il faut rappeler qu'il avait fait à peu près la même chose au mois de septembre.
C'est ça, exactement.
Masterclass, comme on a appelé ça, attention, ouais, ça rigole voilà, pas, Masterclass à Canal+. Il avait cité 9 joueurs, parmi lesquels, au final, il y en avait 3 qui ont une sélection. Lebel, Flamand, Lucu. Lavaux ouais. était déjà dans cette première liste, il le recite aujourd'hui. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup, mais il n'y en aura pas plus de 2 ou 3 peut-être qui auront une sélection pendant ce tournoi.
De toute façon, quand il y a blessé...
Après, c'est dans les 42 déjà, Denis.
Oui, mais après, c'est de la com, parce que de ça sert à rien en fait.
Alors, pour se rassurer. Ouais, il n'y a pas que ça, c'est aussi t'envoies un message aussi à la concurrence, tu dis ne vous endormez pas, il y a du monde qui arrive derrière, on est à 1 an et demi,
je crois que les
ans,
joueurs ils savent pas les qu'il y a du la qualité partout aujourd'hui.
De là à voir arriver Léo Berdeux, Ethan Dumortier et Léo Colli.
Oui, mais
Non,
mais je suis d'accord avec toi.
Je suis demi-mêlée de l'équipe de France, quatrième ou cinquième demi-mêlée de l'équipe de France. Je vais me poser des questions.
Ouais, mais c'était pareil. Oui. Regarde Manu au mois de novembre, on parlait de Le Garec. En fait, il y a toujours un nom.
Le Garec, il est blessé.
Oui, c'est pour ça.
Mais c'est pas la politique du meilleur de Fabien, justement. Parce que, après, quand tu parles de Berdeux, par exemple, ton coup, il éclate. Mais tu peux avoir, comme il avait appelé, je sais plus comment,
l'OVNI.
Donc voilà, il en aura toujours un.
Enfin, Berdeux, attends, Denis, il n'y a pas. Derrière Ntamack Jalibert. Il y a Astoy,
mais
c'est serré, non? Si, avec
tout est serré, je veux dire, mais des gens qui vont éclater au grand jour, il n'y en aura pas 36 non plus, tu vois ce que
d'accord.
Tu veux dire?
Non. Mais, ouais. Mais c'est une stratégie de Fabien Galtier et c'est normal qu'il fasse ça aujourd'hui. Alors peut-être que ça fait beaucoup, 20 noms en 4 mois, mais
c'est trop
fermer
bon
les moi. Yeux aujourd'hui à 2 ans de la Coupe du Monde, c'est la dernière année pour lui. pour refaire des essais et pour insuffler un nouvel élan. Manu, après, derrière, il faudra qu'il ferme.
Il reconnaissait il y a quelque temps qu'il était déjà au-delà des quotas qu'il s'était lui-même fixé.
Tout le monde peut changer d'avis. Même Fabien Galtier, le leader Maximo et le plus grand technicien du rugby français, peut se tromper et peut changer d'avis.
Moi, je pense qu'à un an et demi de la Coupe du Monde, on est à un an et demi de la Coupe du Monde.
20 mois.
Donc 20 mois, c'est demain.
Pour toi, on doit fermer.
Mais on doit fermer.
Il n'y a plus possibilité pour un ovni rugbyistique de faire
qu'il y en aura un. Peut-être qu'il y en aura un. Mais je veux dire,
pas les talents.
Connaissant Fabien, je sais que dans sa tête, il sait exactement qui va jouer dans les prochains mois. S'il n'y a pas de blessure, si voilà, son équipe, il l'a.
Voilà. Ce qui est un petit peu bizarre, Christophe, c'est que on l'a entendu, Fabien, là, il disait que la moyenne d'âge va monter, alors que ces mecs-là, ils sont 20, 22 ans, quoi. Donc c'est, il dit tout et son contraire, là. Mais, messieurs, c'est aussi une carotte pour ces joueurs-là, hein. C'est dire, on vous suit, on vous regarde.
Ouais. Alors, c'est bien de leur mettre des carottes, mais après, tu les fais venir à Marcoussis, tu les renvoies en milieu de semaine, tu les fais revenir la semaine d'après, tu les fais jamais jouer.
Regarde, dans le middle, Florian Van Verberg, le castré, disait, moi, j'ai 21 ans, je peux aller revenir, vous imaginez pas. C'était intéressant, il disait, vous imaginez pas comme j'ai progressé à travailler la touche, à Marcoussis. Ouais.
C'est plus facile pour eux que pour un garçon comme Brice Dulin de faire les
allers-retours.
Oui, ça dépend de l'âge. À 20 ans, tu acceptes tout, on est d'accord.
Non, après, dites-vous une chose, c'est que ce rugby, aujourd'hui, ce qu'on appelle le rugby moderne ou le nouveau rugby, il est consommateur et très énergivore et il est consommateur de jeunesse. Regardez les Wokies sur la Coupe d'Automne des Nations l'année dernière. C'est que des gamins qui vont en Angleterre et qui sont au niveau, tout simplement parce qu'ils sont au niveau physiquement. Et t'es pas à l'abri que ces jeunes, il y a encore 2-3 jeunes qui prennent le lead parce qu'ils sont plus forts physiquement, parce qu'ils vont plus vite, parce qu'ils courent plus longtemps et qu'ils sont plus frais, tout simplement.
Ça veut dire que le rugby va, à terme, devenir un sport réservé aux gens entre 20 et 27 ans. Et ensuite, tu seras.
Je crois que ça sera plus compliqué pour les plus de 30 ans pour s'imposer. Ça, c'était évident.
Quand tu vois, le seul trentenaire d'expérience, c'était Bernard Leroux. Dans ce groupe, si je dis pas de bêtises, il y a quelques mois, et ça s'est pas très bien passé. Non,
mais pourquoi Fabien Galtier se gênerait de faire une large revue d'effectifs à 2 ans de la Coupe du Monde?
Mais là, on fera pas une large.
T'as raison. Non, il vient de nous annoncer 20 noms.
Oui, mais il va les faire jouer quand?
Non, mais il les appelle, il leur fait goûter.
N'oublie pas que tu as la tournée en. N'oublie pas que tu as la tournée en.
Au Japon.
En juillet au Japon, on partira sans les finalistes.
Ouais. Donc il faut trouver du beau monde et il y a du beau monde. On a l'avantage dans le rugby français.
C'est la NASA là,
d'avoir une génération incroyable.
C'est la NASA.
Ouais, vous étiez combien à l'époque à jouer au rugby?
Pas beaucoup. Dans le staff non plus, c'était pas beaucoup.
Ça faisait quand même la machine.
C'est qu'il y avait un kiné, un entraîneur.
Tu te rappelles le
Il y avait même pas d'adjoint, un signal.
Tu te rappelles tes data à l'époque?
Data, on n'avait pas data.
Il avait des data.
On avait des data pour la troisième mi-temps. C'est pas pareil. Et là, je vais te dire, on était bon.
Ah, ça, je te fais confiance.
Des tatis plutôt.
Bravo Denis.
Et déjà, je les accueillis.
Il avait pas des data, il avait des tatis. Ouais.
Merci les copains. Les tatis, on aimerait bien les avoir, les tatis, un jour on va avoir après.
Tatis Daniel, ouais.
Peut-être qu'elles ont maintenant des tatis.
On n'oublie pas le resto, hein. On n'oublie pas le resto.
Et on n'oublie pas non plus, pour ceux qui adorent Entre les poteaux, de s'abonner. Bah oui, il faut s'abonner, messieurs, dames. Si vous voulez comme ça recevoir tous les lundis vers 18h, 18h30, le nouveau, la nouvelle version.
Et à chaque nouvel abonné, Denis paye un resto.
Il invite.
Et ça, avec Jeff, on s'abonne chez Candebord.
Les abonnés ne payent pas, mais en revanche, c'est toi qui vas payer pour tous les abonnés qui nous rejoignent. Okay. Voilà, donc si vous vous abonnez, vous êtes invité par Denis Charbon.
Merci Denis. Allez,
bonne semaine à tous.
Bonne semaine.
Et à la semaine prochaine.
Bonne année Denis.
Bonne année aussi.
Ciao.